When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 376 du podcast Jean Actu. Alain Mathé, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, nouveau débrief NFL, on vous expliquera pourquoi. À mes côtés cette semaine pour parler de tout ce qui s'est passé en NFL, il y a d'abord Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut.
Grégory Richard est également là, bonjour Grégory.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Comme un air de déjà-vu, messieurs, on doit l'avouer, puisqu'on est très transparent avec nos auditeurs, j'ai très stupidement oublié d'appuyer sur le bouton « Enregistre » la première fois qu'on a enregistré cette émission. Et comme on a les deux logiciels, enfin un logiciel où j'ai oublié d'appuyer sur « Enregistre » et le logiciel de sécurité qui a planté pendant l'enregistrement, et ben pour la première fois, on se retrouve à enregistrer deux fois la même émission à la suite. Hein. Donc voilà, on va essayer d'être aussi pertinent que la première. On vous promet, c'était bien.
Moi, je... Bah ouais, c'est dommage. Bon,
elle était pas mal, mais on va essayer de faire aussi bien. Au programme cette semaine, la fessée, la correction, la volée, la piquette. Comme l'avait dit Raphaël dans son résumé de match, les Buccaneers ont pris cher. Oui, Raphaël, il sourit parce que j'ai fait le même lancement la première fois.
Bah oui, va y avoir c'est un hyper bien déjà... là, c'est bien.
Hein. Va y avoir un air de déjà vu, hein, fatalement. Les Buccaneers ont pris cher contre les Saints et on va évidemment en parler donc dans les affiches de la semaine. L'attaque des Bills, la défense des Giants sont aussi au programme, sans oublier Tua Tagovailoa et tous les autres matchs de la semaine. Beaucoup de belles choses dans ce débrief et c'est parti.
Hi, this is Darren Wall from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
J'avoue que c'était juste pour réécouter cette superbe ligne de basse que j'ai fait exprès de ne pas enregistrer la première. Ça, on peut l'écouter à nouveau. Messieurs Saints, Buccaneers, pardon, 3 Saints 38, c'est dans ce sens-là puisque ça se jouait à Tampa Bay. La victoire donc très large de New Orleans dans ce match. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, la domination offensive des Saints ou la domination défensive des Saints?
Ah, du coup, c'est à moi.
Ouais, on sait plus qui.
Allez, Greg, lance-toi.
La domination défensive, monsieur. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on attendait de voir avec pas mal d'excitation cette attaque de Tampa Bay. Il y avait notamment les débuts très attendus d'Antonio Brown. Il y avait notamment, je me suis perdu, bien sûr, dans mon raisonnement, les débuts d'Antonio Brown, le retour notamment d'un Mike Evans qu'on présentait en tout cas à 100%. Enfin, tout était lié, en tout cas, pour faire en sorte que cette attaque de Tampa soit hyper performante. Monte et qu'elle soit stoppée en soi par la défense des Saints, c'est pas infamant. Après, de là avoir les difficultés que l'attaque a éprouvées tout au long de la rencontre, avoir une ligne offensive qui a autant souffert, ce qui n'a pas forcément souvent été le cas cette année, ça s'explique difficilement. Seulement un field goal en fin de match, histoire de dire qu'on a marqué des points, mais en dehors de ça, c'est un contenu relativement pauvre et on peut quand même s'attendre à autre chose vu le casting qui nous est proposé.
194 yards seulement en attaque pour Tampa Bay, 13 first down. Je ne vous donne pas tout, mais c'est largement à l'avantage de New Orleans. Comment tu fais pour limiter… Enfin, ils ont limité le jeu au sol à 8 yards. Ils ont forcé Tom Brady à 3 interceptions. Les Buccaneers ont eu le ballon que 19 minutes, donc c'est une déroute quand même assez incroyable. Raphaël, est-ce que ça pointe un match sans ou des faiblesses profondes pour New England ? Pour New England, c'est l'habitude avec Tom Brady et pour Tampa Bay, évidemment.
Un petit lapsus. Ça illustre des faiblesses profondes dans l'effectif de Tampa Bay. Ça illustre peut-être un peu plus des erreurs de coaching, ou en tout cas, si ce n'est des erreurs de coaching, des idées un peu étranges du côté de Bruce Arians. Comme tu dis, il n'y a que 9 yards au sol, mais parce que les Buccaneers ont décidé de ne pas courir, on va le dire clairement. Certes, les Saints menaient rapidement au score, mais enfin, de là, abandonner à ce point-là le jeu au sol, ça reste toujours un peu étrange. Il y a toujours cette utilisation de Mike Evans un peu étrange à mon sens. Je reste pas convaincu par son utilisation. Je l'avais déjà dit, je crois, dans le podcast d'avant de Trade Deadline. Je reste persuadé que voilà. Donc, ça montre peut-être ça. Après, l'effectif, l'expérience de certains de ces joueurs fait que c'est pas un match où tu dis voilà, Tampa ne vaut rien. Et puis parce qu'il tombe aussi face à ce qui est pour moi le meilleur match, le match le plus abouti par une équipe cette saison. Enfin, je pense que c'est vraiment le match le plus complet d'une équipe cette année en NFL, puisque tout était bon chez les Saints ce week-end-là. Attaque, défense, équipe spéciale et coaching, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines, voire années. Donc, bon.
Greg, ils ont été dépassés dans le coaching, les Buccaneers ?
Oui, très clairement, parce que c'est sûr que là, du côté des Saints, ça a joué quand même, ça a parfaitement appelé les jeux quand il le fallait, et ça a été notamment symbolisé par cette utilisation en attaque d'un Taysom Hill qui n'était pas toujours utilisé à bon escient depuis le début de la saison, et ce qui est beaucoup plus le cas désormais. Pardon.
Pardon. Alors, il faut vous dire, c'est pas facile d'enregistrer une deuxième fois la même émission.
Non.
D'autant qu'on avait déjà fini la première version que vous entendrez à la fin parce que c'est un morceau.
Je regardais Raphaël qui disait oh merde, il va encore nous parler de tes sommets.
Non, mais bon, c'est marrant.
Mais oui, voilà, en tout cas, il y a eu cette utilisation qui était beaucoup plus à propos. On était moins dépendant d'Alvin Kamara avec notamment le retour des principales cibles de Drew Brees, hein, parce que et Michael Thomas et Emmanuel Sanders étaient de retour, alors qu'à l'inverse, du côté de Tampa, en effet, il n'y a pas grand-chose qui a souri, notamment offensivement. Enfin, on parle du jeu au sol, mais c'est quand même assez anormal de forcer autant sur des joueurs comme Antonio Brown qui vient d'arriver, ou sur Rob Gronkowski qui est quand même plus qu'en fin de carrière, qui est quand même relativement essoré. Et c'est peut-être un petit peu des réflexes qu'a pris Tom Brady, parce que c'est deux cibles qu'il connaît plus ou moins bien de son passage à New England.
Il y en a une qui vit chez lui, hein, donc en même temps.
Oui, c'est
lui, c'est sûr. Ouais.
Mais voilà, c'est sûr que en tout cas, ça a rendu le jeu, l'attaque de Tampa Bay un petit peu caricaturale, et ça a amené ce coaching staff à s'enfoncer petit à petit face aux bons appels qui étaient faits par le coaching staff des Saints.
Brise a lancé 4 touchdowns, aucune interception, 12 joueurs ont capté des passes, 138 yards de sol. Clairement, ça a été quand même un match très complet, comme l'a dit Raphaël, et une attaque qui a le bénéfice de se connaître, et on voit que ça leur donne quand même un ascendant sur celle des Buccaneers, qui était aussi censée être terrifiante, mais qui se retrouve quand même, et puis moins complète aussi, hein, parce qu'Alvin Kamara apporte une dimension que les Buccaneers n'ont pas.
Bien sûr. Complètement, cette dimension au sol et même au-delà du sol, parce que Alvin Kamara est tellement polyvalent que c'est même pas juste un coureur. On en avait parlé déjà, mais c'est presque un coureur numéro 1, receveur numéro 2, suivant, ça pourrait presque être même le meilleur receveur dans certaines équipes de la ligue. Donc cette polyvalence qu'il a, clairement, les Buccaneers ne l'ont pas dans le backfield. Et sur ce genre de match, ça fait la différence, mais sans avoir en plus à l'utiliser outre mesure. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour ces Saints-là. Tu peux sortir des prestations offensives d'un tel niveau sans même suruser Alvin Kamara. Donc, pour eux, c'est tout positif. C'est une victoire vraiment, comme aiment dire les Américains, statement, quoi. C'est vraiment une étape du point sur la table.
Ouais. Michael Thomas, 5 réceptions et 51 yards pour son retour. Il y a 2 victoires en 2 matchs pour les Saints face aux Buccaneers. Ils avaient quand même déjà frappé un grand coup en ouverture de la saison pour les calmer. Là, ils en remettent une couche alors que les Buccaneers avaient l'air de monter en température, sans rentrer dans la psychologie de comptoir. on peut quand même dire que Tampa a été remis à sa place d'outsider et que maintenant ils seront dans l'ombre de New Orleans jusqu'au playoff et jusqu'à preuve du contraire, Greg.
Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, Tampa sera pas forcément négligé de par l'aspect défensif qu'on voit depuis plusieurs semaines. Et ça, on sait qu'en playoff, ça reste quelque chose de non négligeable. Après, voilà, les Saints, malgré tout, même si ça reste impensif, voilà, leurs meilleurs ennemis, ça reste eux-mêmes. On voit qu'il y a des matchs, notamment en playoff, où ils se tirent un petit peu des balles dans le pied tout seuls. Mais en attendant, d'un point de vue effectif, d'un point de vue expérience, notamment en coaching, hein, voilà, Sean Payton a gagné un Super Bowl, c'est pas par hasard. Il y a ce qu'il faut pour prétendre rester la place forte de la division NFC Sud. Et en l'occurrence, ils l'ont bien montré lors de leurs deux confrontations face aux Bucks.
On passe aux Bills 44, Seahawks 34. Les Seahawks mal préparés, puisque Pete Carroll a expliqué on les attendait au sol. Pas forcément le meilleur plan de jeu quand on sait que Buffalo a la 7e attaque aérienne de la Ligue et la 26e au sol. On n'a pas vraiment compris ce qu'ils cherchaient, Pete Carroll, mais visiblement, il l'a trouvé, puisqu'ils se sont quand même bien fait allumer par cette équipe de Buffalo. Le retour de John Brown fait du bien quand même. Il avait joué la semaine dernière en étant peu ciblé. Là, il capte 8 ballons pour 99 yards. Raphaël, il change quand même cette attaque, John Brown.
Oui, oui, il change cette attaque. Comme, juste pour revenir, comme tu le dis, la déclaration de Pete Carroll est un peu inquiétante, parce que inquiétante, peut-être pas, mais étonnante en tout cas, comme tu le dis en parlant de John Brown, on a quand même vu toute cette saison que le moteur principal des Bills cette année, c'était le jeu aérien. Qui était peut-être un peu en baisse ces deux, trois dernières semaines, mais enfin, c'est quand même une équipe qui a gagné jusque-là grâce à son jeu aérien. Donc, t'attends à ce qu'il t'attaque au sol alors que t'as une des pires défenses, si ce n'est la pire défense aérienne, c'est quand même très étonnant ce que dit Pete Carroll. Et John Brown, pour rebondir là-dessus, effectivement, on voit quand même qu'il a un tout autre impact. Il apporte quelque chose vraiment au jeu aérien parce qu'il permet que les défenseurs adverses soient moins nombreux, moins concentrés sur Diggs. Il ouvre des opportunités. Donc, et puis, il est hyper fiable en termes de réception. Il a peu de drops, il arrive à créer de la séparation. Donc, ça fait du bien à Josh Allen, ça fait du bien à toute cette attaque. Et à partir de là, ils ont retrouvé ce qui les faisait gagner en début de saison. Donc, c'est une bonne nouvelle là-dessus. Ouais.
Greg, t'aurais pas blindé contre le sol à la place de Pete Carroll?
Non, c'est pas la première chose qui serait venue à l'esprit. Visiblement, on a beaucoup savré le champagne après la prolongation de contrat.
Oui,
un peu trop peut-être.
C'est vrai.
Mais oui, non, en l'occurrence, c'est sûr que le premier réflexe à avoir quand tu sais que le jeu au sol et que Devin Singletary est quand même assez décevant depuis le début de la saison, c'est vrai que c'est assez étonnant d'entendre ce type de déclaration. Donc là, en l'occurrence, du côté de Seattle, on pourra se targuer d'en effet avoir respecté le plan de jeu en disant le jeu au seuil a été bien contenu. Sauf que l'attaque contre la passe, la défense contre la passe, pardon, continue de souffrir, de prendre des wagons de yards, et en l'occurrence des wagons de points, puisqu'ils finissent avec plus d'une quarantaine de points dans la musette. Donc ouais, là en l'occurrence, c'est peut-être pas très très judicieux ce qui a été proposé par le coaching staff de Seattle, et puis du coup dans le prolongement par la défense et l'équipe en général.
Alors en défense, Jamal Adams commence à être un petit peu pointé du doigt. Est-ce qu'il y a des motifs pour lui en vouloir? Il est pointé du doigt parce que forcément il est arrivé contre beaucoup de choix de draft, qu'il pourrait y avoir un énorme contrat derrière, et que pour l'instant les résultats ne sont pas là. Mais il faut être plusieurs pour défendre. Donc est-ce qu'on peut pointer du doigt Jamal Adams dans ces conditions-là, Raphaël?
Oui, c'est un peu toute la question. Moi, je suis un peu un grand fan du joueur, donc j'aurais tendance peut-être à le surprotéger pour le coup. Mais comme tu dis, il coule un peu avec cette défense, mais c'est pas le seul. Quand on voit un Quinton Dunbar à Washington l'an dernier qui réussissait très bien, lui aussi est en difficulté. C'est tout un système, à mon sens, qui peine à trouver la solution. Ken Norton, le coordinateur défensif, n'arrive pas à exploiter les joueurs de cette équipe et son backfield défensif. Donc j'aurais tendance à dire, certes, il est décevant parce qu'il ne tire pas le groupe vers le haut comme ça pouvait être attendu, et notamment quand tu files deux choix du premier tour pour ce joueur-là. Mais il n'est pas le seul facteur incriminant. Il n'est pas le seul facteur incriminant, et de ce fait, pour moi, après aussi peu de matchs, pas d'intersaison, tu peux pas dire que tout est un échec déjà, quoi.
Grégory, est-ce que tu lui en veux?
Non, pas spécialement, parce que le problème, c'est qu'il veut peut-être faire trop de choses en l'occurrence, et que ça a peut-être tendance à le desservir également. Son apport sur le run stop est quand même assez indéniable depuis le début de la saison. On le voit souvent en spy, notamment sur le backfield offensif. Et c'est sûr que voilà, est-ce que ça joue pas aussi sur le côté absence de support, on dira, pour les cornerbacks qui sont déjà très très en difficulté, même quand le front seven est performant, parce que là en l'occurrence sur ce week-end-là, il y a eu quand même pas mal de pression mise sur Josh Allen, je crois 5 sacks sur le match, dont la moitié pour Jaren Reed. Donc c'est sûr que ouais, peut-être que faut peut-être l'utiliser un peu plus sur la couverture. On sait qu'il excelle dans ce domaine-là, et c'est principalement un gros cogneur, un joueur qui va apporter le soutien sur le run stop. Et ça, en plus, pour un joueur qui revient, on peut difficilement le mettre à son discrédit vu ce qu'il apporte depuis le début de la saison contre la course.
Bon, match 100 pour Russell Wilson qui a 4 ballons perdus. C'est dur de lui en vouloir tant il doit être à bloc quand même pour couvrir les problèmes de cette défense en permanence.
Ouais, c'est ça. C'est, malgré ses 4 erreurs, son équipe met plus de 30 points. Et à un moment, tu crois, au début de deuxième mi-temps, tu as même l'impression qu'il peut-être les faire revenir parce qu'ils enchaînent bien. Comme tu dis, aucun quarterback, même quand il marche sur l'eau, peut se permettre de faire une saison parfaite sans perdre un seul ballon, sans avoir un match moins bien. Enfin, ça reste un jeu d'équipe à 53. Si tu ne peux pas compter sur le collectif pour l'emporter à certains moments, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, clairement, il n'y a pas de reproche à lui faire outre mesure là-dessus.
D'ailleurs, pour revenir sur la défense, ça avait beaucoup blitzé pour une fois. Il y a 7 sacks avec des sacks et notamment Jaren Reed qui est actif.
Oui, c'est ça, vraiment.
Mais voilà, derrière, c'est compliqué. C'est vraiment la couverture qui s'écroule, quoi. Donc, Greg, qu'est-ce qu'il peut faire même tactiquement, tu vois, quand tu réussis 7 sacks, mais que derrière, tu prends l'eau, comment t'adaptes ça, quoi?
Oula, alors là, tu me demandes de mettre dans la peau de Ken Norton. Donc, alors,
je veux un plan de jeu, moi.
Carrément un plan de jeu. Bah, écoute, non, mais de toute façon, il y a des automatismes qui vont arriver dans cette défense. Il y a un Carlos Dunlap qui vient d'arriver, qui n'est pas déshonorant sur sa première sortie. Il y a forcément des choses qui vont se mettre en place un peu plus pour rendre ce pass rush encore plus intimidant. C'était pas dur vu ce qu'on voit depuis le début de la saison. Mais ouais, peut-être pour exposer encore moins ce backfield. Mais c'est, voilà, je le répète, peut-être justement avoir un groupe de safety peut-être un peu plus porté sur la couverture. En effet, sachant qu'en plus, on a des linebackers qui peuvent courir. Hein, KJ Wright dans cet exercice, c'est pas mal aussi. Donc, honnêtement, je pense que voilà, faut le temps de laisser les choses se mettre en place. Là, c'est sûr que sur ce match-là, contre une équipe de Buffalo qui était en dedans, mais qui s'est clairement relancé sur ce match-là, un petit peu à la surprise de tout le monde. Voilà, faut voir éventuellement comment ça va être recorrigé. Après, si je veux être un peu cynique, je m'inquiéterais aussi un petit peu pour Ken Norton parce que malheureusement, les ajustements, on lui met quand même un defensive end niveau Pro Bowl dans les pattes, si je peux parler ainsi. Bon, on attend quand même que ça progresse parce que sinon, je pense que son aventure à Seattle, en tout cas en tant que coordinateur défensif, va prendre fin plus rapidement que prévu.
Pourquoi ils n'ont toujours pas recueilli Dan Quinn qui erre dans les États-Unis?
Bonne question.
Ça peut venir. Attends, pourtant.
Pas... Bah ouais. Bon, Buffalo, en un mot, on attend un test défensif un peu plus costaud quand même pour s'emballer sur Josh Allen MVP, tout ça.
Oui, moi je
t'en attends de voir. Washington 20, Giants 23. Que fait un match de NFCS dans les affiches de la semaine? On se le demande, mais figurez-vous qu'ils sont dans la course au play-off. L'histoire de ces dernières semaines, c'est la défense des Giants. Correct, 13e en NFL sur les points encaissés, 15e sur les yards encaissés. Milieu de tableau NFL, ça veut dire très haut en NFC. Comment ils font ça malgré un effectif beaucoup moins talentueux que Philadelphie, beaucoup moins talentueux sur le front seven que Washington, qu'ils ont affronté dans ce match-là? Où est-ce qu'il y a eu des progrès notables dans cette défense des Giants, qui fait que désormais elle est honorable?
Écoute, pour moi, deux secteurs où tu as des progrès vraiment notables. C'est Bradbury qui est devenu le cornerback numéro 1, qui est venu cette intersaison de Carolina, qui assume complètement ce rôle de numéro 1 et qui apporte énormément dans le backfield défensif par rapport à l'an dernier. Et puis tu as au poste de linebacker, j'ai pas toujours été un grand fan de Blake Martinez et de Fackrell, des deux. Mais c'était tellement le néant sur ces postes à New York depuis des années qu'en fait, ne serait-ce avoir des joueurs corrects à ce niveau-là, ça c'est une plus-value indéniable pour la défense. Donc, en termes d'effectifs, voilà, avoir renforcé ces deux rideaux, ça permet à la défense de progresser. Et puis, je pense qu'on peut mettre du crédit sur le coordinateur défensif parce que tu as beaucoup plus de pression et de sacs, de pass rush. Alors que pour le coup, sur la ligne défensive, on a à peu près les mêmes joueurs que l'an dernier. Donc, ça a aussi une partie à remettre au crédit des coachs.
Grégory, où est-ce que tu vois du progrès toi dans cette défense de New York?
Raph a globalement tout dit. Hein. C'est sûr que déjà, ça paraît beaucoup plus appliqué, beaucoup plus opportuniste que ce qu'on pouvait voir ces dernières années. C'est pas dur, en effet, avec un pass rush qui était quand même aux abonnés absents pendant une large partie de la saison 2019. Donc là, c'est sûr, franchement, c'est une équipe qui est capable vraiment de freiner toutes les attaques. Hein. On sait que, par exemple, pour rappel, hein, ils ont quand même joué les Rams, qui sont un peu irréguliers cette année, mais ils les ont contenus, par exemple, à 17 points. Ça contribue justement à faire que les Giants restent longtemps dans les rencontres cette année. Hein. 7 matchs sur 9 disputés à 8 points d'écart ou moins. Donc, ça leur permet de rester dans le coup jusqu'au bout. Et là, en l'occurrence, sur le match à Washington, ça leur permet de valider un succès avec ces nombreux turnovers obtenus en fin de partie.
Est-ce qu'on se fait des illusions ou est-ce que Daniel Jones est un handicap fatal ? C'est-à-dire qu'ils sont prétendants, ils sont pas loin, ils sont à une seule victoire hein, de la tête ouais. de cette division.
Une et demie du coup. Vu
une et demie, oui, il y a le match nul. Mais est-ce que Daniel Jones est un handicap mortel ? On parle d'un quarterback qui a perdu 36 ballons en 22 matchs en carrière. Alors là, miracle, il n'en a pas perdu dans ce match. Pas perdu officiellement parce qu'ils n'ont pas été recouverts. Mais voilà, est-ce qu'ils peuvent réussir à gagner cette division avec un Daniel Jones?
Je ne sais pas s'ils peuvent réussir à la gagner. Je pense que Philadelphie a une petite avance sur eux quand même dans cette division. Mais factuellement, jusque-là, Daniel Jones, c'est effectivement celui qui, à mon sens, fait perdre cette équipe. Oui, la ligne offensive n'est pas bonne, même si elle est meilleure depuis 2 semaines, elle progresse. Il fait perdre cette équipe parce qu'il perd beaucoup trop la balle et qu'encore une fois là, il a un fumble sur un des derniers drives qui aurait pu coûter la victoire à son équipe parce que derrière, cette perte de terrain rend la balle au feu Redskins, mais à la football team. Donc oui, c'est un problème. Après, c'est sûr, c'est toujours compliqué parce que on dit qu'il faut prendre le temps pour juger les joueurs. Lui, il en a 1 an et demi, deuxième année sans camp d'entraînement, 2 coordinateurs défensifs différents. Mais le problème, c'est que ce côté à perdre des balles est vraiment très très inquiétant parce que là-dessus, il n'a pas l'air de progresser et c'est le gros warning au-dessus de sa tête. Donc bon.
Bah, et puis j'ai envie de te dire, si au moins il gagnait des yards, parce que par exemple, un Jameis Winston, ses premières années, il perdait 36 ballons mais il marquait 36 touchdowns, c'est équilibré. Là, le truc, c'est qu'il y a un drive correct, il galère. L'équipe en face perd 5 ballons et il gagne même pas largement. Il gagne de 3 points parce qu'Alex Smith lance 2 interceptions en fin de match. Enfin, je sais pas, Greg, moi, ça me paraît compliqué. À part s'il continue à défendre le béton et à gagner 166 yards au sol à 4,7 yards par course comme ce dimanche, avec Jones, c'est quand même compliqué.
Oui, là, c'est sûr que très clairement, on a du mal à avoir une progression flagrante. Alors, certains diront qu'il est que dans sa deuxième année. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même un nombre de pertes de balles vraiment trop importantes. Hein, tu donnais les chiffres tout à l'heure. Et c'est sûr qu'il faut. C'est un peu l'inverse d'un Russell Wilson, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit quasiment parfait pour ne pas. Pour pouvoir faire gagner son équipe, ou en tout cas être sûr de ne pas la faire perdre. Parce qu'en l'occurrence, dès qu'il y a une perte de balle, de par le différentiel relativement réduit dont je parlais tout à l'heure d'un point de vue score, c'est rapidement rédhibitoire pour les Giants. Donc voilà, il faut vraiment être on a compris que ce ne serait pas un joueur capable de péter 400 yards sur une rencontre. C'est un profil de game manager. Maintenant, le concept du game manager, c'est quand même de réussir à protéger le ballon un minimum. Donc tant que Daniel Jones ne sera pas capable de le faire, surtout avec le casting qui est autour de lui, parce qu'il n'y a pas que des vedettes non plus.
Non.
Voilà, c'est sûr que les Giants, malgré le peu d'espoir qu'ils ont dans cette division tristement abordable, ça va quand même se réduire comme peu de chagrin au fur et à mesure des semaines.
Alex Smith est le nouveau titulaire de Washington. 3 interceptions sur ce match, 2 très difficiles. Alors il n'y a pas de jeu au sol vraiment pour l'accompagner. Il n'y a qu'un seul receveur. C'est pas le même problème parce que c'est un meilleur quarterback foncièrement que Daniel Jones. D'ailleurs, les Giants avec Daniel Jones, avec Alex Smith, ce serait peut-être leader de division. Mais c'est pareil, est-ce qu'ils ont une chance de s'en sortir? Smith reste un bon quarterback, mais là, pour le coup, il joue au niveau de ce qu'il y a autour de lui et il n'y a pas grand-chose autour de lui. Quoi. Donc,
Non, il y a pas grand-chose. Après, pour le coup, le jeu au sol, Gibson fait une saison plutôt correcte. Ça a été quand même très très vite abandonné sur ce match. Hein. Il y a très peu de courses à appeler, ce qui est quand même étrange parce qu'ils ont jamais été très en retard non plus. Enfin, à la fin de première mi-temps, ils ont certes un peu de retard, mais rien d'irrécupérable. Et la preuve, ils finissent pas loin. Maintenant, je pense que le Smith qu'on a là est encore un peu plus limité que par le passé, donc je vois pas très bien quelle est la destination et vers quoi veut tendre Washington, offensivement en tout cas, cette saison. Donc, bon.
Greg, ils sont toujours derrière Philadelphie et outsider en son division.
Oui. Après, voilà, c'est une équipe au regard de la reconstruction. Hein, on le sait très bien. L'idée, je pense, de toute façon, cette année, on en parlait en début d'année, c'est d'avoir un Joe Judge qui estime un petit peu le niveau des différents postes à sa disposition. Et on voit qu'ils ne sont pas non plus à la rue sur tous les postes. Hein. En tout cas, voilà, en attaque, ils vont quand même récupérer Saquon Barkley. Donc, il va falloir se concentrer sur les quelques postes à besoin. On sait qu'ils ont du flouze. Du pognon. Alors, on s'est beaucoup marré lors du premier enregistrement sur les expressions.
Oui.
De la lover, me disait Alain, je crois.
Oui, il paraît qu'il faut dire ça quand on est jeune.
Donc, ils ont de la lover pour récupérer éventuellement des joueurs intéressants à la free agency pour continuer justement de progresser et d'améliorer, de poursuivre en tout cas favorablement cette reconstruction. Donc, voilà. Après, il y a la question du quarterback. Est-ce que tu passes par la draft ou par la free agency si vraiment il y a besoin? Mais voilà, il y a des questions qui vont se poser et c'est sûr que le poste de quarterback comme d'autres, ça laisse quand même augurer le fait que les Giants ont une marge de manœuvre intéressante s'ils veulent vraiment progresser et redevenir de nouveau dominants dans cette NFC Est.
Alors, je crois qu'on se regarde en rigolant avec Raphaël, c'est juste parce que tu n'avais pas compris ma question. Je posais la question sur Washington à la base. Et non.
Ah merde, pardon.
Mais c'est pas grave. Pardon.
Non, mais du coup, j'ai commencé à me demander, mais est-ce qu'il a mis le robot de la première émission qui s'aurait écouté la seconde? J'étais interrogé.
Je me suis dit, mais il faut que je la place, c'est important.
Non, mais alors, donc, tu as bien fait de parler pépette, oseille, pognon.
Washington a de la maille aussi, hein, faut pas croire. Non, franchement, ça peut se faire. Et là, en l'occurrence, le fait qu'ils perdent en plus contre les Giants, là, ce sera peut-être plus du coup au niveau de la draft qu'ils pourront éventuellement trouver leur bonheur, hein, parce que ça peut être une draft plus intéressante que prévu sur la position. Et le top 5 tend les bras à Washington. Donc oui, dans la même idée, je pense que voilà, sachant que défensivement, ils ont quand même bien reconstruit, ou en tout cas, ils vont être très très intimidants pendant quelques années maintenant. Donc ouais, en attaque, il y a pas mal de choses à remettre dans le bon sens, dont le poste de quarterback, qui peut en effet leur permettre de faire meilleure figure, puisque Raphaël le disait, il y a quand même des joueurs assez prometteurs comme Gibson, McLaurin, etc.
Je me permets, j'ai fait une petite recherche en même temps sur le site monnaie-magazine.com. On apprend qu'on peut dire l'artiche, l'avoine, les balles, le beurre, les biftons, le blé, la brique, les carbures, les douilles. Enfin voilà, il y en a plein. Hein. Le flouze y est.
Je pense que c'est le mot qui a le plus de synonymes au monde. Hein.
Maille, l'oseille, la patate, les pépettes, le pèse, les picaillons, le pognon, les radis, le rond, le talbin et la thune. Et sur wiktionary.com, l'ové, étymologie. Alors attends,
incertaine.
Ah oui, attends. Ah non, c'est ça. Définition, argot, sous, somme d'argent. Problème, on n'avait plus un l'ové. Voilà. Note, ce mot est le plus souvent utilisé au pluriel. Voilà. C'est pour notre côté jeune, là, tu vois, on a un nouveau mot.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alain qui cherche à nous donner un côté jeune, hein, je veux dire.
Mais non, mais c'est pas... encore
donc
une fois.
On assume la trentaine, Alain, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, mais c'est ce que je disais. Moi, quand je t'ai entendu dire flouze, je me suis senti bien parce que je me suis dit, j'aime bien quand Greg, il essaie de dire des mots d'argot. Il est comme moi, tu vois, il a de l'argot des années 90. Et je me sens moins seul, tu vois, parce que. Bon, sur ce petit jingle et la suite des matchs.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Cardinals 31, Dolphins 34. On remercie Van pour le jingle. Tua Tagovailoa sort son premier gros match, 20 sur 28, 248 yards, 2 touchdowns, un superbe match car Arizona perd en manquant un field goal de légalisation à 2 minutes de la fin. C'est un field goal qui se joue sur une 4e et 1 sur les 31 yards de Miami. Cliff Kingsbury, donc, soit il la joue et il essaie d'aller gagner, soit s'il la joue, il peut perdre évidemment le match. Mais il restait 2 minutes à jouer. Est-ce que vous auriez joué cette 4e tentative ou est-ce que ce field goal de 49 yards, puisque c'était à 49 yards, semble être une décision raisonnable? Grégory, je te laisse commencer parce que j'ai une petite idée sur l'avis du collègue.
C'est compliqué à analyser. C'est vrai qu'on a quand même fait venir Cliff Kingsbury pour pour envoyer du lourd, pour y aller franco quand il y avait en tout cas des opportunités pour le faire.
Qu'est-ce qu'on est Jones aujourd'hui.
Et t'as vu, c'est incroyable. Et ouais, donc c'est sûr que ça peut paraître un tant soit peu conservateur, surtout qu'il y avait un Kyler Murray qui avançait bien. Après, de mémoire, il me semble que Chase Edmonds est recalé sur une quatrième tentative peu de temps avant.
Ouais.
C'est peut-être aussi ce qui a dissuadé Kingsbury, et le fait de se dire que Zane Gonzalez n'est pas non plus le pire kicker de la ligue. Après, bon, c'est sûr que ça aurait pu se tenter. Est-ce qu'il avait pleinement confiance en sa défense aussi, quand on voit le rendement global, notamment des cornerbacks sur cette sortie? C'est peut-être éventuellement ce qui l'a motivé. Après, oui, honnêtement, j'aurais compris et le field goal et la tentative de quatrième éventuellement. Voilà. Là, il n'y a que 3 points. Bon, ça ne me paraît pas non plus totalement farfelu.
Oui, mais du coup, s'il avait fait confiance à sa défense, il aurait joué la quatrième, puisqu'il aurait pu laisser sa défense récupérer le ballon.
Non, mais oui, non, c'était une petite ironie justement pour dire que sa défense avait un peu souffert.
Oui.
Donc voilà, c'est pour ça que je pense que bon, il s'est dit vaut mieux assurer le coup au moins égalisé plutôt que se retrouver à moins 3, le rendre le ballon à Miami avec la possibilité que Tagovailoa continue de les faire pas mal souffrir, parce qu'en l'occurrence, pour sa deuxième sortie, il s'en est quand même plutôt pas mal tiré.
Raphaël, toi, tu l'aurais joué?
Oui, moi, je l'aurais joué. Greg parle de la 4-1 ratée par Chase Edmonds un peu plus tôt dans le match, mais t'as aussi une 4-2 réussie par Kyler Murray à la course un peu plus tôt dans le match. Voilà, on a quand même vu un Kyler Murray qui a encore fait beaucoup de mal à la défense adverse par sa capacité à sortir de la poche. Ça me paraît assez improbable à 2 minutes de la fin de ne pas jouer la victoire en donnant la balle du match à ton quarterback, avec aussi potentiellement des options comme d'Andrew Hopkins, rappelons-le, à la réception. Bon, voilà, moi je trouve que c'est vraiment un petit peu un choix timoré, on va dire, du coach d'Arizona, dont j'attendais un peu plus par le profil, on va dire. Donc
Si vous affrontez un jour Raphaël, il joue toutes les quatrièmes, hein, de mémoire.
Ah oui, bon, de toute façon, moi j'arrête le poste de kicker. Hein, bon.
Ah, mais ça, ouais, ça, on est d'accord. Plus d'équipe spéciale, on s'en fout. Tagovailoa, c'était le bon choix sur ce match, en tout cas, parce qu'il avait eu du mal sur le premier. Là, pour le coup, c'est quand même une très belle sortie du gaucher de Miami, le seul gaucher maintenant de la ligue, face à un Kyler Murray plutôt déchaîné aussi. Après, c'est deux styles différents. On est plus. C'est pas pocket passeur pour Tagovailoa, mais on est plus dans la poche quand même, là, Greg.
Oui, surtout qu'il a quand même perdu, a priori, en tout cas on verra les prochaines semaines, mais il a quand même perdu un petit peu de mobilité de par sa lourde blessure l'année dernière. Donc c'est sûr que là, il a joué beaucoup plus traditionnel dans le côté vraiment passeur, et ça se ressent d'ailleurs dans le système offensif de Miami, puisque c'était déjà ce qu'on voyait plus ou moins avec Ryan Fitzpatrick, qui était beaucoup plus à l'aise dans le système mis en place par Chan Gailey. A priori, on a un Tagovailoa qui suit à peu près la même trajectoire, et ce malgré la sortie en cours de match de Preston Williams, hein, qui est quand même le receveur numéro 2 de cette équipe. On a continué d'avoir un bon impact aérien. Il finit à combien, 20 sur 28 Tagovailoa? J'ai plus les stats exactes, mais en tout cas ça a quand même été assez propre, aucune interception. Et oui, en l'occurrence, c'était quand même en décalage avec un Kyler Murray qui s'est dépatouillé comme il a pu, qui a beaucoup fait mal à cette équipe de Miami au sol, avec plus de 100 yards, mais avec aussi beaucoup de déchets, cette sensation de parfois d'en faire un chouïa trop. Et ça s'est payé quand même également avec un fumble retourné pour un TD de la part de la défense des Dolphins.
Oui, tu fais bien de le préciser, il marque aussi en défense. Raphaël, t'allais dire quelque chose?
Oui, non, après, je disais effectivement, enfin, je voulais dire, toi, Tagovailoa a pas montré effectivement sur ce match qui sortait de la poche. Par contre, je l'ai trouvé globalement assez mobile dans la poche, justement, et plusieurs fois, il a allongé le jeu par juste sa capacité à se mouvoir dans sa poche. J'ai notamment en tête une 3 et 12 de mémoire où c'est parce qu'il est capable de bien bouger qu'il se donne un peu plus de temps et qui permet à son tight end de dépasser un bloc pour aller chercher la réception derrière de plus de 12 yards. Donc je trouve que malgré tout, on sent qu'il a une certaine aisance dans le mouvement. Alors peut-être pas comme un Kyler Murray, un Russell Wilson pour sortir très loin, mais il est pas, c'est pas comme à une époque un Manning qui était très fixe dans la poche et qui, je pense notamment à Eli Manning, hein, mais très fixe dans la poche. Je trouve qu'il a montré quelques beaux pas, un beau footwork là-dessus, donc ça m'a semblé plutôt pas mal à ce niveau-là.
Miami qui s'en sort donc en marquant en défense, toujours très solide sans perdre de ballon, avec un touchdown défensif. Il continue d'être très solide dans tous les secteurs. D'ailleurs, ses courses au play-off, 5 victoires, 3 défaites, ça commence à prendre forme hein, quand même pour cette équipe de Miami.
Ça commence à prendre forme, ils enchaînent bien, surtout que là dans le calendrier, ils ont une victoire qui leur était pas forcément acquise quand tu regardais le calendrier de manière globale comme ça. Et de mémoire, ils ont un match, à mon avis, qui va être le match pour la 7e place. C'est en semaine 16 contre les Riders, je crois qu'ils affrontent. Mmh. Qui suit là, à mon avis, est le match bien costaud pour la 7e place en AFC. Donc, ils sont sur la bonne voie, en tout cas.
Il y a un vrai duel à 4 pour les deux dernières places de wildcard, je pense. Hein. Il y a Raiders, Dolphins, Browns et Colts qui sont à 5 victoires, 3 défaites actuellement et qui semblent un ton en dessous de Ravens, Titans, Bills, Chiefs, Steelers qui sont au-dessus. Donc, ça va se jouer à 4 pour 2 places. Peut-être 3 places hein, si jamais le plan d'urgence de la NFL doit être mis en place avec 8 équipes.
3 places de toute manière, non ?
Ah bah oui, 3 d'ailleurs.
Bah oui, c'est 7, hein, de cette année, c'est 7.
Oui, non, mais c'est ce que je dis. C'est sur
c'est 4 là, ou 3.
Ils sont 4 équipes pour les 2 places restantes. Non, pour les 2 places restantes. Parce que devant,
ah oui,
bah,
tu considères les Ravens, oui.
Je pense que les Ravens, ça passe.
Oui, oui, non, mais t'as raison. Oui,
donc,
excuse-moi.
Pour les places 6 et 7, il te reste Raiders, pardon. Dolphins, Browns ou Colts. Et je faisais allusion à un plan d'urgence, c'est que la NFL pourrait voter un plan d'urgence en cas de trop de reports de matchs pour faire des playoffs différents avec 8 équipes de chaque conférence. Mais on n'y est pas, on vous l'annoncera sur le site si ça, jamais ça se fait. On reste au fait. On va passer aux Titans, 24, Bears 17. D'ailleurs, les Titans, on l'a dit, qui sont en tête de leur division. C'était un vilain match. Les Bears incapables d'avancer, des stats qui ont été gonflées en fin de match, mais ils ont gagné que 3 first downs sur la première mi-temps. Ils n'ont pas marqué de points avant le dernier quart-temps. Ils sont complètement en train de tuer les efforts d'une très bonne défense qui a limité les Titans à 228 yards, ce qui est quand même plutôt un exploit vu ce qu'il y a en face. Est-ce qu'il y a une solution offensive, Grégory, pour Chicago aujourd'hui pour relancer cette saison ?
Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il faut changer le. Je pense qu'il faut changer le running back. Malheureusement, pourtant j'aime beaucoup David Montgomery, mais c'est sûr que j'en avais déjà parlé plus tôt dans la saison, mais malheureusement l'impact du backfield offensif dans une attaque déjà plus que poussive, c'est un euphémisme de le dire, mais en l'occurrence, c'est vrai que le jeu au sol est quand même assez calamiteux. Plus petit nombre de TD depuis le début de la saison, plus petit nombre de yards si on prend uniquement les équipes qui ont joué les 9 matchs depuis le début de saison. Pas une seule sortie à plus de 100 yards, à au moins 100 yards en tout cas. Et sur ce match-là, il fait un fumble qui est retourné pour un TD. Il loupe une quatrième qui aurait pu être intéressante pour Chicago pour lancer le match offensivement. Ça fait quand même un petit peu beaucoup au niveau du casier, si je peux parler ainsi. Mais voilà, je sais que Tarik Cohen est blessé jusqu'à la fin de la saison. Mais je pense que ce ne serait pas un luxe du côté de Chicago de tester d'autres options au niveau du jeu au sol pour voir éventuellement si ça pourrait être un peu plus concluant. Parce que là, certes, le play call offensif n'est pas fabuleux. Mais si en plus, il y a un running back qui est en plein doute et qui est d'une inconstance chronique, ça va commencer quand même à faire limiter pour espérer atteindre les playoffs.
Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'imagination ou de solution au niveau du quarterback, on ne touche pas. Enfin, ça ne changerait plus rien, quoi, Raphaël.
Non, ça ne changerait pas grand-chose. Je pense que c'est vraiment globalement toute cette attaque n'y arrive pas. La plus grosse course sur ce match, c'est 11 yards par Barkevius Mingo sur un fake punt. Voilà, pour donner une idée de où ils en sont en termes de jeu de course et même d'attaque. Ils sont offensivement, ils n'y arrivent pas. Le casting, le play call, rien ne fonctionne vraiment. Et comme tu dis, ça tue complètement cette défense qui a très bien joué. Et des Titans qui, même en étant complètement bloqués en attaque, avaient quand même 17 points d'avance tellement l'attaque de Chicago n'était pas capable de produire. Donc là, ils sont dans une situation où, à part tout faire péter en attaque, je vois pas très bien quelle autre solution tu as à ce niveau-là.
Les Titans ont eu besoin d'un touchdown défensif de Desmond King pour tuer le match à 17-0. Derrière, il n'y avait plus grand-chose. Encore une fois, les Titans s'en sortent avec des belles actions, notamment d'Edge Brown, qui est une de leurs stars en devenir. Il a 23 ans, 4 réceptions, 100 yards, un touchdown. Mais c'était vraiment le minimum syndical. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour eux ou alors est-ce qu'ils sont tombés sur une très bonne défense et il faut passer à la semaine prochaine ?
Un petit peu des deux, je pense, parce que c'est sûr que quand tu regardes globalement leur série offensive, il y a quand même 7 free and out et à peine, on va dire, 3 actions conclues par des points. Quand ils arrivent à obtenir cette première tentative, ils peuvent être dangereux, mais en l'occurrence, sur ce week-end-là, ça n'a pas été hyper évident. Après, voilà, il y a un côté ombre, un côté lumière avec cette équipe qui est quand même assez impressionnante. Ils peuvent marcher sur Buffalo, comme ils peuvent se faire dominer de la tête et des épaules par Cincinnati. Donc, c'est une équipe à qui, a priori, en attendant leur double confrontation face aux Colts, la FC Sud est promise. Mais bon, il va falloir, je pense, montrer autre chose s'ils veulent vraiment surprendre en attaque, malgré le rendement assez satisfaisant, notamment du trio offensif Tannehill, Henry Brown.
Chiefs 33, Panthers 31, gros retour de Christian McCaffrey, 151 yards gagnés au total, 10 réceptions. Les Panthers qui ont bien accroché les Chiefs, qui font un beau match, qu'est-ce qui leur a manqué pour finir, pour achever ces Chiefs qui sont décidément inarrêtables, ou en tout cas quand on leur laisse 5 minutes pour faire la différence ? Raphaël.
Écoute, moi je vais regarder le côté peut-être un peu trop fan des Chiefs, mais moi je pense qu'il leur qu'il y a justement à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de solutions en fait pour arrêter cette attaque des Chiefs, et que quoi qu'il arrive, quel que soit le match et le contexte, elles trouvent toujours la solution. Contre Buffalo, c'était par le jeu au sol. Là, c'est trois drives explosifs où ils.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ils enchaînent trois touchdowns. Carolina n'arrive à répondre que sur un seul des trois drives. Et derrière, eh ben, t'es déjà en retard et tu cours pour les rattraper. Donc, je pense que malheureusement, pour Carolina, à l'heure actuelle, il y a un effectif trop court pour battre Kansas City. Et en plus, une équipe de Kansas City qui, à mon sens, je vais pas dire à le pied sur le frein, ça serait peut-être trop ambitieux non plus, n'exagérons pas, mais qui a cette capacité à être létale quand elle le souhaite et à tourner le match en sa faveur. Donc, moi, je n'ai pas tellement de solutions pour battre les Chiefs, donc je ne pourrais pas vraiment te répondre.
Alors, techniquement, quand je dis ce qui leur a manqué, c'est un field goal de 67 yards pour la victoire. Ça aurait été un record NFL. Hein, donc
c'est
très, très lointain. Mais il y a eu un bon Teddy Bridgewater, il y a eu un bon Christian McCaffrey, aucun ballon perdu. Donc, c'est quand même très, très dur pour eux, Greg. Mais voilà, c'est dur contre ces Chiefs qui peuvent accéder de temps en temps et puis faire la différence comme ça, quoi.
Oui, c'est sûr, surtout avec une équipe qui, on le répète, voilà, reste quand même assez jeune, avec une profondeur quand même assez relative. En plus, manque de bol pour eux, Kansas City a pas mal de pénalités, mais ils en concèdent quand même 12 sur ce match-là. C'est pas quand même la meilleure équipe contre laquelle il faut être autant pénalisé, surtout que souvent après des flags, ils ont pris des points. Donc, ça en rajoute quand même un petit peu derrière la tête. Mais voilà. Cette équipe de Carolina, de toute façon, on sait à peu près où elle se situe. Hein. Elle a un bilan de 3-6 à l'heure actuelle, en n'ayant pas fait que des mauvaises sorties, hein, malgré leur bilan peu flatteur. Donc, voilà, ça continue d'engranger de l'expérience pour la première année de Matt Rhule. Et puis, ils ont réussi à freiner un minimum Tyreek Hill sur ce match-là. Et dès que la connexion s'est faite, Raph en parlait, c'est devenu rapidement inarrêtable. Cette connexion Mahomes-Hill, entre autres, hein, puisque Travis Kelce a quasiment tout catché de son côté. Donc, je reste quand même un petit peu sceptique sur Kansas City. Et tout ne me rassure pas, notamment d'un point de vue play call, avec un jeu au sol qui a été oublié et un Patrick Mahomes qui arrive, de par son immense talent, à compenser cela. J'espère qu'en play-off, ça ne leur sera pas préjudiciable.
Ils n'ont pas besoin de jeu au sol. C'est Andy Reid au sommet de son art. Là. C'est le pinacle de sa carrière.
C'est ça. Ouais, mais vous, vas-y. Si je peux me permettre, là où c'est un peu dur de dire qu'ils, sur ce match, ils n'utilisent pas le jeu au sol, mais on a vu plusieurs fois cette saison qu'ils ont mis le ballon entre les mains de Clyde Helaire quand il fallait. Mmh. Je pense au match contre les Bills et je pense au match contre. Il y a un autre match, peut-être le premier de la saison d'ailleurs.
Au tout début, le tout premier.
Au tout début. Donc quand il faut passer le ballon, donner le ballon aux coureurs, ils savent le faire cette saison, ils le font bien. Moi, je pense juste que sur le moment, Andy Reid connaît parfaitement vraiment son attaque et que sur le moment, bah, c'est Mahomes à la main chaude. Donc, juste quand Mahomes a la main chaude, tu lui donnes la balle. En fait, je comprendrais même pas qu'on lui donne pas de ballon, en fait, tellement là, il est.
Je suis d'accord avec toi, sauf que sur ce match-là, il se retrouve quand même en difficulté, notamment en première mi-temps, alors que face à eux, ils ont quand même une équipe dont le run stop est quand même loin d'être fabuleux, qui se fait souvent marcher dessus par les coureurs adverses. Mmh. Donc qu'ils aient pas une seule fois exploité cette clé-là, ça en dit quand même un petit peu long sur le play call un petit peu incertain, je trouve. Après, encore une fois, Andy Reid, ça reste Andy Reid, hein. J'ai pas tout ceci là-dessus. Mmh. Mais il y a une ligne offensive qui est un peu plus poreuse. Sur un match de play-off, je prends l'exemple des Steelers, hein, qui sont pas croisés pour l'instant. S'ils arrivent à leur poser des difficultés à la passe, faudrait pas que le jeu au sol manque de rythme, parce que ça aussi, on l'a vu 2-3 fois quand même.
Il y a toujours un moment où ils font sauter le bouchon, quoi. C'est comme en play-off l'an dernier, même au Super Bowl, tu vois. Et moi, je maintiens, c'est le Andy Reid Project. Je pense qu'il va essayer de gagner un Super Bowl avec zéro course. Et à la fin de. Tu sais, il y a les gens, ils font des mic drop. Andy Reid, il va faire un burger drop et il s'en va comme ça. Il va faire, allez, zéro course. C'est fait. J'ai jamais réussi avec McNabb, j'ai jamais réussi avec Vig. Zéro course. Hop. Bon, en tout cas, tranquille hein, pour Mahomes, 372 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Et il est le joueur le plus rapide à avoir lancé 100 touchdowns en carrière. Il lui a fallu 40 matchs alors qu'il en avait fallu 44 à Dan Marino. Colts 10, Ravens 24. Philip Rivers est-il suffisamment entouré, messieurs? C'est une des questions qui se posent dans un match finalement à leur portée, en tout cas en première mi-temps. Il n'y a que 56 yards pour les Ravens. Et puis finalement, il n'y a que 10 points à la fin pour Indianapolis. Alors évidemment, c'est contre une des meilleures défenses de la Ligue. Hein. Mais voilà, les receveurs, jeunes receveurs d'Indianapolis n'ont pas vraiment d'impact. T.Y. Hilton n'est pas là, il est blessé. Est-ce que finalement, Rivers s'est pas retrouvé dans un truc où en effet, il a enfin une bonne ligne et il a peut-être moins de cibles qu'ailleurs finalement?
Ouais, je sais pas trop. Moins de cibles qu'ailleurs, je sais pas. Au Chargers, c'était son problème également de pas avoir de cibles. Hein. Là, en l'occurrence, tu l'as dit, il a une meilleure O-line. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on continue de le mettre dans cette position-là et dans cette difficulté. On a déjà vu sur d'autres matchs cette saison que quand Philip Rivers était le principal dépositaire de l'offense des Colts, et je parle dans des proportions assez importantes, puisque là, en l'occurrence, c'est 43 passes et 21 courses. Quand il était vraiment le dépositaire majeur de cette attaque, ça fonctionnait pas forcément bien. Alors certes, il y a un Jonathan Taylor qui perd un ballon, mais qui avait marqué un touchdown au préalable. Je trouve ça assez étonnant qu'on se soit pas focalisé sur lui, et le fait qu'on mette peut-être également un petit peu trop de pression sur lui, ça le dessert autant que de pas forcément avoir d'autres receveurs d'impact que T.Y. Hilton. Donc voilà, est-ce qu'il faut vraiment attendre Monts et Merveilles de Philip Rivers à 40 ans avec, comme tu le dis, un casting qui est pas non plus sensationnel? C'est ce qui m'interroge un peu sur les décisions qui ont été prises par Indianapolis. Surtout quand on voit, malgré le score, le fait que l'écart n'était pas monstrueux entre les deux formations.
Par contre, je ne sais pas ce qu'il t'a fait, Rivers, mais il a 38 ans. Hein. Il n'a pas 40.
Ah bon? Je crois que j'étais persuadé qu'il avait 40, pardon.
Raphaël, est-ce que cette équipe des Colts, elle déçoit un petit peu?
Je dirais déçoit peut-être un peu offensivement. Déçoit offensivement un peu, parce que Rivers était censé venir pour faire un peu passer un palier à cette attaque qu'on avait vue très limitée l'an dernier par Jacoby Brissett. Or là, on voit que c'est pas tellement le cas, parce qu'en confiant plus de responsabilités au quarterback, on n'obtient pas des meilleurs résultats en attaque. Donc ça pousserait à dire qu'effectivement, il faut peut-être trouver plus d'équilibre. On a l'absence d'un Marlon Mack qui fait pas de bien au jeu au sol, mais avec une telle ligne offensive, tu devrais quand même donner plus de ballons. Après, je te rejoins un peu, je trouve quand même qu'il manque de cibles, et que autant en milieu de carrière à le San Diego, il pouvait faire 100, ou il a bien fait 100 globalement. Autant là, peut-être qu'à 38 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils sont décevants sur cet aspect-là. Après, défensivement, c'est difficile de leur reprocher quoi que ce soit, parce qu'ils sont défensivement, ils font une très belle première mi-temps face à Baltimore. Ils craquent un peu plus en deuxième mi-temps, parce qu'ils sont bien exposés sur leur défense de zone qui prend un peu plus cher au centre du terrain, dans cette zone un peu, cette sorte d'interzone. Mais bon, ils font un match pas dégueu, et si, si t'enlèves le touchdown défensif, ils prennent pas non plus une poignée, un train de points. Donc,
non, c'est sûr. Bah, ça nous amène justement vers l'autre chose dans ce match, c'est que les Ravens continuent de ne pas impressionner, en l'occurrence, avec une attaque qui ne gagne que 266 yards. Pour le coup, là, on est loin, c'était quasiment ce qu'ils gagnaient au sol par match l'an dernier, tellement ils étaient forts. Ils sont clairement maintenant dans le wagon qui est derrière tout ce qui est Steelers, Chiefs, dans l'AFC. Ils sont plus parmi les incontestables favoris.
Oui, ils sont un peu derrière parce qu'il y a ce problème offensif. Après, je sais pas si c'est un wagon très long et très loin derrière. J'en suis pas certain, notamment par rapport aux Steelers. Mais ils sont moins offensifs, hein. Enfin, ils sont moins efficaces en attaque. De mémoire, je sais que Grégory avait des doutes sur cette ligne offensive avec les départs qu'il y avait eu. Plus là, en plus avec Ronnie Stanley blessé, ils ont plus de difficultés à imposer le jeu au sol. Et puis moi, je reste assez défiant, méfiant, on va dire, sur le casting aérien, parce que l'an dernier, une de leurs forces, par exemple, c'était d'avoir ce duo de tight end Hurst-Andrews pour attaquer la défense adverse. Là, ils ont plus que Andrews, donc je trouve ça déjà moins efficace. Et Marquise Brown n'arrive pas à émerger comme une vraie menace extérieure régulière, constante. Et je trouve que ça fait un peu de mal à cette attaque malgré tout.
Quelque chose à ajouter sur les Ravens, Greg, ou on passe au suivant?
Bah, écoute, j'ai presque envie de te dire, on continue malgré tout, malgré le rendement assez délicat des Ravens ces derniers temps, de les considérer comme des candidats plus que crédibles au playoff. Et je pense que Baltimore y sera. Je pense que là, présentement, même si tout n'est pas fabuleux, l'idée, contrairement à ces dernières années où on marchait sur tout le monde en fin de saison régulière et où on se cassait les dents en playoff, c'est peut-être justement avant tout de gagner les victoires, de se remettre un petit peu dans le bon sens après cette défaite concédée à domicile face au rival Pittsburgh. Et là, en l'occurrence, gagner de cette manière-là, c'est un peu à l'image du touchdown de Gus Edwards, hein, à qui on donne le ballon pour aller marquer le touchdown coûte que coûte après son fumble perdu, c'est là où on se rend compte que John Harbaugh joue avant tout sur le côté mental de l'équipe et cherche à concerner tout le monde jusqu'au bout pour éventuellement réussir à franchir cette marche qui fait défaut pour l'instant aux Ravens au mois de janvier.
Cowboys 19, Steelers 24. Ça devait être une balade. Finalement, les Steelers ont eu beaucoup de mal à se défaire de Dallas, notamment parce que la ligne offensive des Texans a bien tenu contre la défense des Steelers. Est-ce qu'il y a un espoir pour Dallas ou alors on a un peu surperformé et puis Pittsburgh a pris un peu tout ça de haut?
Ouais, je pense qu'on est un peu dans cet entre-deux, comme tu dis. Dallas fait clairement un peu mieux, ne serait-ce dans l'attitude. Il y a vraiment de la combativité sur ce match. Il y a des receveurs qu'on revoit enfin un peu, alors que le jeu aérien, ces deux, trois dernières semaines à Dallas, n'existait plus. Donc, forcément, ça donne une meilleure image. Après, c'est vrai qu'on a quand même l'impression, comme les Steelers l'ont déjà fait par le passé ces dernières années, hein, qu'il y a un peu ce côté arrogant de Pittsburgh quand ils arrivent face à une équipe bien plus faible de peut-être jouer tranquillement, et là ils se sont fait surprendre parce que malgré tout ça reste la NFL et que tu peux pas venir en tong sur le terrain. Et puis il y a eu quelques trucs un peu étonnants de la part du play call des Steelers. Moi, j'ai notamment un snap où ils envoient TJ Watt couvrir un receveur adverse. Alors TJ Watt est très bon, hein, y a pas de souci, mais je pense quand même qu'il est plus fait pour saquer le quarterback adverse que pour couvrir les receveurs. Donc bon, voilà, un match un peu étrange, pas si facile à mon sens pour en tirer quoi que ce soit sur les Steelers. Mais
moi, je sais qu'on va me dire que j'ai une dent contre Tomlin, mais 43 secondes à jouer, 4e et 1 sur les 15 yards de Dallas, tu as le field goal qui te donne 8 points d'avance. Et du coup, bon, face à, avec tout le respect que j'ai pour Garrett Gilbert, en théorie, tu peux défendre à peu près tranquillement avec ta défense derrière sur 43 secondes. C'est un peu comme tu disais, l'arrogance. Il joue la 4e. Il la rate puisqu'il envoie James Conner plein centre, exactement comme la semaine dernière sur une autre action décisive. Et du coup, il donne quand même une occasion à Dallas de gagner parce qu'il n'y a que 5 points du coup d'écart. Donc, il pouvait aller gagner avec un touchdown sans même la conversion. Donc, c'est un peu étrange. Comme tu le dis, c'est peut-être un peu à l'image de ce match dont, en effet, il n'y a peut-être pas grand-chose à tirer en dehors du fait que Ben Roethlisberger, qui en plus a été placé sur la liste Covid il y a quelques heures, s'est blessé au genou. Mais en dehors de ça, je ne suis pas plus inquiet que ça pour eux et je ne suis pas plus rassuré que ça que pour Dallas, Grégory.
Non, bah, par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est vrai que forcément, le sentiment qui prédomine à l'issue de ce match, c'est de se dire, est-ce que les Steelers, au sortir de leur match face à Baltimore, se sont pas dit on a fait le plus dur et ils ne sont pas arrivés avec un énorme excès de confiance en voyant cette équipe de Dallas qui, à l'inverse, étaient en pleine décrépitude avec un avec le quatrième, cinquième quarterback, etc. Ils se sont dit bon, on va pas avoir besoin de forcer notre talent. Ça rejoint un petit peu ça hein, quand on voit justement cette tentative de Mike Tomlin. Les choix un petit peu curieux dont parlait Raph, dont était assez coutumier Keith Butler à une certaine époque. Donc ça m'étonne pas trop en l'occurrence qu'il fasse ce type d'appel un petit peu farfelu, mais ouais, là en l'occurrence, il s'en sort plutôt pas mal, malgré en plus un play call offensif un petit peu curieux, parce que malgré la blessure de Ben Roethlisberger pendant le match, on s'est évertué vraiment à lui faire lancer le ballon, alors que à un moment donné, même en fin de match, il n'y a pas forcément urgence particulière. Donc ouais, non, c'est sûr que voilà, ça peut éventuellement les amener à se refocaliser un petit peu, à se dire bon, on a pris peut-être ce match. Un petit peu à la légère, là on va se refocaliser pour éviter des pièges de ce genre-là. Hein. Après, j'ai des doutes de toute façon, vu ce qu'on voit depuis le début de la saison régulière sur le fait qu'ils finiront invaincus, qu'ils finiront à 16-0. Oui, mais bon, là en l'occurrence, perdre à Dallas après le coup de force d'avoir été gagné à Baltimore, ça aurait quand même fait un peu tâche sur le CV de cette saison.
Bon, un mot sur Dallas quand même. Garrett Gilbert a été meilleur que Ben DiNucci. Et on rappelle que je crois qu'il a été élu meilleur joueur de l'AAF et ils avaient gagné le titre avec Orlando pour ce que ça dit. Après, en plus, ils perdent Trevon Diggs sur ce match. Donc, ça reste quand même une équipe qui n'est pas particulièrement bien placée pour gagner sa division, même faible division. Mais ça reste très compliqué quand même.
Ils sont même très bien placés pour finir dernier de la NFC, est-ce qu'on peut le dire.
on va conclure là-dessus. Alors. Chargers 26, Raiders 31. Les Chargers sont encore perdus dans les dernières secondes. Deux passes incomplètes en fin de match qu'aurait donné la victoire à cette équipe. Évidemment des choix de coaching un peu douteux qui ont mis Raphaël dans un état de joie non contenu, si je me rappelle.
Parle-nous d'Anthony Lynn, Raphaël.
Oui. Ce match où les deux équipes finalement sont au coude à coude, hein, pour moi, se fait vraiment. C'est sur la différence de coaching que le match se remporte pour les Raiders. Parce que d'un côté, on a un Gruden qui a fait confiance à Derek Carr, qui a un peu lâché la bride en le faisant plus jouer en profondeur que ce qu'il a l'habitude, en lui demandant de pousser, de forcer un peu. Et notamment quand il a un enchaînement de deux drives où il fait deux passes en profondeur, une pour Agholor qui donne un touchdown, une autre pour Renfro, et ça fait bien avancer le drive. Enfin, voilà, c'est ponctué par de la réussite. Alors que l'autre côté, c'est tout le conservatisme, j'ai envie de dire, d'Anthony Lynn, qui se retrouve avec la balle de match avec 4 minutes à jouer, 3 temps morts, et qui finalement finit par jouer la victoire sur deux actions à 5 secondes de la fin, alors qu'il avait quand même 4 minutes pour marquer un touchdown. Donc, gestion du chrono catastrophique, avancée trop lente. Et puis après, voilà, face à la end zone, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Le mec appelle deux fades à la suite. Voilà, des passes qui n'ont aucune chance de réussir ou très peu. C'est complètement débile, c'est une buse. Voilà.
Greg, est-ce que ça, c'est la différence, c'est fait sur le coaching ?
Bah, en l'occurrence, là, sur ce match-là, les Raiders ont été plutôt bien coachés, ont bien exécuté. Hein. Raph le disait, il y a peut-être éventuellement l'erreur de Derek Carr qui permet aux Chargers de récupérer le fumble en l'occurrence en fin de première mi-temps, qui permet aux Chargers de récupérer le momentum et de pointer en tête à la pause. Après, sur le reste, ils ont quand même été globalement opportunistes. Ils ont quand même rarement douté. Ils ont souvent été en tête dans ce match malgré le fait de jouer à l'extérieur. Ils capitalisent en plus sur une autre énième erreur des Chargers, à savoir ce muff punt de KJ Hill en fin de match qui leur permet notamment de repasser devant sur field goal. Donc voilà, c'est sûr que ils avaient deux matchs pièges à l'issue de leur bilan de 3-3 avec des déplacements chez les Browns et chez les Chargers, ce qui n'étaient pas des matchs évidents. Ils gagnent les deux avant un calendrier relativement un peu plus favorable au cours de la fin novembre et du mois de décembre pour éventuellement prétendre à cette cinquième, sixième place. Alors cinquième, on l'a dit, c'était un peu compliqué, mais en tout cas au moins sixième spot peut-être au niveau de la conférence américaine.
160 yards au sol, Derek Carr avec deux touchdowns et quelques actions décisives. Ils sont dans leur registre, hein, les Raiders. C'est pas super fort sur le papier, mais c'est solide quand il le faut. Donc c'est presque l'inverse des Chargers, hein, d'ailleurs, qui ont tout le talent mais pas le coaching. Donc c'est plutôt pas mal et en effet, ça se dirige toujours vers les playoffs. Jets 27, Patriots 30. Les Jets ont presque failli gagner. Il leur a manqué un quart-temps. Joe Flacco était titulaire pour ce match. Il s'en est plutôt bien sorti avec la présence de tout le groupe de receveurs de New York. Qui fait quand même une différence. Est-ce qu'il y a un espoir qu'ils en arrachent un d'ici la fin de l'année ?
Oui, c'est possible, parce qu'au final, quand tu réfléchis historiquement, des saisons à zéro victoire, il n'y en a quand même que très peu dans l'histoire de la Ligue. Deux.
Je crois qu'il n'y en a que deux, hein. Lions,
c'est ouais, les c'est Browns, ça, deux. Hein. Deux, donc c'est quand même la preuve qu'il y a un moment où tout le monde finit par en arracher une en semaine 17 quand tu es face au repos, en semaine 16 quand une équipe fait des repos. Enfin voilà, tu arrives toujours à choper un truc. Donc pourquoi pas, comme tu dis, le retour de l'ensemble des receveurs fait du bien. Après, bon.
Oui, y a pas. Il joue Chargers, Dolphins, Raiders, Seahawks, Rams, Browns, Patriots pour finir la saison. Bon, ça vous
dit. C'est pas facile. C'est pas facile. On dira qu'ils peuvent taper les Browns.
C'est vrai.
Ouais. Sur un match en plus, en 16e semaine.
Ça serait quand même vachement Browns de perdre leur qualif en playoff chez les Jets.
C'est ça, oui.
À zéro victoire. Enfin, il n'y a rien de plus Cleveland. Hein.
Bah, et puis, ce serait très Cleveland de dire non, zéro défaite, c'est nous. C'est pas vous.
Non, mais après pour le coup, voilà. Ce qui est déjà une bonne chose, je ne sais pas s'ils finiront à 0-16, mais en tout cas, ce qui est déjà beaucoup mieux, c'est qu'on a vu quand même une certaine forme d'envie du côté des Jets, qu'on ne voyait clairement pas sur les 8 premières semaines. Alors, certes, en face, on a une première mi-temps où les Pats, notamment la défense, n'étaient pas très, très concernés. Me semblait pas, en tout cas, de mon point de vue, très, très concernés. Mais en tout cas, de bout en bout, les Jets se sont aussi donné les chances de gagner parce qu'ils ont enfin donné l'impression, d'un point de vue global et plus particulièrement offensivement, de par l'apport de Breshad Perriman et de Denzel Mims, voilà, on les a vraiment sentis intéressés par le fait de s'imposer. Et ce serait bien que ce ne soit pas occasionnel sur des matchs en prime time contre les Patriots. Voilà, que ce soit au moins le cas toutes les semaines et que les fans des Jets puissent se dire à la fin de la saison, bon, peu importe le bilan, j'ai presque envie de dire, au moins on a un minimum la fierté de voir notre équipe jouer et se battre jusqu'au bout, quoi, ce qui est quand même le minimum à ce niveau-là.
Bon, les Patriots, eux, continuent de bricoler. Ça a été surtout au sol, des imprécisions en profondeur, notamment pour Cam Newton, mais bon, il a le truc de pas abandonner. Ils ont réussi quelques actions défensives, mais ça reste du bricolage quand même du côté de New England cette année. Hein.
Ouais, c'est un peu de bricolage, comme tu dis. Newton a au moins le mérite de rester combatif, et ça, c'est tout à son honneur. Enfin, on l'a encore vu sur cette fin de match où, pour le coup, il a été récompensé comparé à la semaine dernière où il perd le ballon sur la dernière série. Après, oui, c'est le jeu au sol qui est mis en avant, mais qui s'explique par une ligne offensive qui ouvre des brèches assez intéressantes, un jeu au sol plutôt efficace dans ce système de comité avec Harris, White, Burkhead. Bon, c'est pas comme ça qu'ils iront en playoff, hein, clairement. Faudra forcément passer un moment s'ils veulent espérer y aller, parce que techniquement, c'est pas encore mort. Hein, bon, c'est compliqué pour les Patriots cette année, entre les blessures, la transition, le machin.
Vikings 34, Lions 20, superbe match de Dalvin Cook qui a marché sur Détroit, 22 courses, 206 yards, soit 9,4 yards par course, il était quasiment un first down par course. On est sur un top 3 coureur de la ligue maintenant qui porte l'attaque des Vikings à lui tout seul, hein, puisqu'ils ont décidé de ne plus passer dans l'idéal.
Oui, bah c'est un bon football années 30, hein, à ce niveau-là. Mais en même temps, tant mieux pour eux, parce que Dalvin Cook, franchement, est absolument excellent. Il a plus de 5 yards de moyenne de portée depuis le début de la saison. Il transfigure cette attaque. Il y a vraiment, depuis le début de la saison, on a vu une attaque avec lui et une attaque sans lui. Ça me semble assez indéniable. Donc, ça marche. Ça marche contre les Lions. Et je pense que Greg voudra revenir dessus. Mais c'est. Bon, tant mieux. C'est une clé. C'est sans doute pas la clé pour aller très loin. Mais c'est au moins la clé pour arrêter de perdre.
Greg, il a d'autant plus de mérite que justement tout le monde s'attend pas à ce que Kirk Cousins lance pour 400 yards par match, quoi.
Oui, c'est ça. Après, je regardais Kirk Cousins, toujours pas perdu contre Détroit, je crois, depuis son arrivée du côté de Minnesota. Bon, vous me direz, c'était pas il y a 10 ans.
Oui, j'allais dire, quel échec en plus contre
ouais,
Détroit.
Puis, je suis pas sûr que ce soit pour ça qu'il a été signé à Pondor.
Non, mais bon, je sais pas, c'était peut-être sur une des clauses, une petite case à remplir. Faut pas trop moins deux fois un adversaire de division, je sais pas, mais bon. Non, ça, c'était pour la petite parenthèse. Après, je rejoins ce qu'a dit Rav. Globalement, c'est sûr que Dalvin Cook, son impact est non négligeable. Après, sans vouloir justement mettre de côté son impact personnel, mais c'est vrai que quand on voit également ce qu'il est capable d'apporter son backup Alexander Mattison, on voit que cette équipe de Minnesota, autant sur la ligne offensive et sur le pass pro, il souffre beaucoup depuis bien de trop nombreuses années. Par contre, sur le jeu au sol, pour libérer des brèches, c'est quand même assez impressionnant. Et en effet, enfin, on me tendit à la perche, mais ouais, contre cette défense de Détroit, en plus, qui se permet pour la deuxième semaine de suite de jouer avec seulement 10 joueurs sur le terrain, sur une séquence de jeu, dont une fois sur une action qui permet justement à Dalvin Cook d'avoir un boulevard pour le touchdown, c'est quand même assez problématique. Et ouais, malheureusement, du côté de Détroit, on recommence à retomber dans les travers avant un calendrier qui va être un peu plus tendu encore. Donc, ouais, là, on est peut-être à la croisée des chemins entre Minnesota et Détroit. C'est deux trajectoires relativement différentes.
Ça, les proprios de Détroit, on leur a dit, c'est l'école Belichick, le mec fait rien comme tout le monde.
Ah ouais, ah,
ils
ouais,
ont
ouais.
pris, tu vois, mais ils savaient pas que ça voulait dire jouer à 10 en défense.
Ouais.
C'est original. La palme de la semaine pourrie pour Matt Stafford, évidemment, liste Covid, puis commotion cérébrale, en plus de jouer pour Détroit depuis plus de 10 ans. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. On comprend qu'ils sont un petit peu au bout du rouleau. Falcons 34, Broncos 27. Pourquoi Grégory a-t-il parié sur les Falcons? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Écoute, parce que Grégory ne veut pas perdre de points.
Ah ouais, non, mais j'en veux pas, il triche. C'est ouf ça. Moi je suis dégoûté, je voulais lui reprendre un point.
Mais tu vois, comme quoi j'ai bien fait. Hein.
Ouais,
j'ai failli être appelé en quatrième carton. Ils ont failli me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu? Regarde, tu vois, on les laisse revenir et tout machin. Mais non, non, ils ont assuré.
Du coup, est-ce que leur défense est meilleure ou est-ce que Drew Lock galère?
Ouais, non, l'attaque de Denver, ça galère quand même un petit peu. D'ailleurs, c'est symptomatique. Hein, il suffit de voir la dernière action sur la quatrième avec le fumble de Cushenberry, le cafouillage XXL. Tout n'est pas au beau fixe, encore une fois. Et là, en plus, quand on voit les appels de jeu, justement, du coordinateur Pat Shurmur, on sent que c'est un casting grandeur nature pour voir ce qu'a Drew Lock dans le ventre. Et malheureusement, d'une semaine sur l'autre, alors certes, il y a le drive de la victoire la semaine dernière contre les Chargers, mais c'est toujours un peu, c'est un peu dans la difficulté, un peu dans la démerde, et là, sur le long terme, ouais, ça va peut-être être compliqué au sein d'une équipe qui reste malgré tout en reconstruction globale.
On n'a pas appris grand-chose sur ce match, Raphaël. Cette attaque des Broncos, en effet, elle est poussive. Locke, c'est à 25 sur 48, 313 yards de touchdown, une interception. Après, ils gonflent leurs stats en fin de match. Hein.
Ils gonflent, lui particulièrement, gonfle ses stats en fin de match. Effectivement, on n'apprend pas grand-chose. Si ce n'est que, je trouve quand même que, à minima pour l'avenir, la doublette Cortland Sutton, Jerry Jeudy me semble vraiment prometteuse parce que Jeudy a encore fait des actions de grand, grand talent sur ce match. Donc, je me dis, si tu trouves le bon équilibre en attaque avec deux receveurs pareils, tu dois pouvoir aller faire quelques dégâts quand même dans les années à venir. Mais
bon, les Falcons ont joué sur leurs forces habituelles, Matt Ryan, Julio Jones, Todd Gurley. Et en défense, donc Keanu Neal, Deion Jones et Foye Olokun.
Foye Olokun.
Je dis bien Foye Olokun. C'est comme les Lions, je ne sais pas ce que je peux dire pour l'an prochain. Est-ce qu'ils vont refaire pareil? Est-ce que le cycle va être cassé? Parce que c'est vraiment deux équipes depuis trois ans qui sont
en boucle. Je m'attendais à ce que tu me poses la question de savoir si on allait garder Raheem Morris. Mais...
Oh non, j'ose même pas.
Parce que c'est un débat qui commence à revenir, mais bon, vu ce qui s'est passé l'année dernière...
J'ose pas.
J'ose pas.
Ah bah là, ce serait l'assurance de continuer le cycle.
Oui, c'est ça.
Jaguars 25, Texans 27. Est-ce que les Texans doivent être heureux d'avoir gagné ou inquiets d'être passés à une conversion à deux points de la prolongation contre des Jaguars menés par Jack Luton? Tu peux le voir positif ou pas, c'est à vous de choisir.
Ouais.
Bon, il s'est plutôt bien débrouillé, hein, Luton. Une très belle action en fin de match.
Oui, c'est vrai. Il fait une très belle action. Il apparaît pas moins fort que Gardner Minshew sur ce match, en tout cas pour conduire cette attaque. Qui a des joueurs intéressants, enfin des jeunes joueurs intéressants un peu partout en attaque, je trouve. Après, ces deux défenses qui sont qui sont en difficulté quand même. Hein. C'est défensivement là, j'ai pas vu grand chose d'intéressant. Hein.
Je vois pas de quoi tu parles. J.J. Watt a réussi son 100e sac en carrière. Les stats ne mentent pas. Il a fait un grand match.
C'est ça en fait. Houston s'en sort avant tout parce que Watson lui aussi est quand même habitué à se débrouiller autant qu'il peut et aller chercher les first down, notamment au sol. Ce que forcément, Newton a peut-être un petit peu plus de mal à faire, en l'occurrence, hein, sans peut-être moins les opportunités quand elles se présentent. Mais voilà, c'est dommage pour cette équipe de Jacksonville, surtout dans le sens où, voilà, s'il n'avait pas été autant déplumé volontairement en début de saison, on pourrait peut-être faire un petit peu mieux. Je dis pas avoir une fiche positive, mais en tout cas, être un petit peu mieux. Là, c'est sûr que voilà, c'est les Panthers du pauvre. C'est-à-dire que malheureusement, il y a un tel manque de profondeur que même sur des matchs a priori à ta portée, ça en dit long. Hein. Ils ont beaucoup
plus. Panthers du pauvre.
Les Panthers du pauvre. Ah, putain,
déjà que les Panthers sont pas très riches, mais alors là, c'est.
Là, c'est ça. Donc, du coup, ouais, ça devient compliqué. Même contre des équipes qui paraissent au fond du trou comme les Texans. notamment de par le niveau de la défense texane.
Après moi j'aime bien parce que quand tu regardes Deshaun Watson se battre, il y a un côté un peu homérique, tu sais, on dirait ces films d'action où le héros il fend la foule, il y a des autres trucs qui lui tombent dessus,
il y a
le feu, on lui tire dessus, il roule, il a pris une balle, il continue quand même.
Watson il en est quand même à dire à remercier le seigneur en gros qu'on lui ait pas enlevé Will Fuller, quoi, t'imagines
l'état oui.
dans quel état il en est, quoi, genre Will Fuller est un signe, est un cadeau de Dieu.
La semaine prochaine il y aura la Hamilton Seal, mon héros.
C'est... tu te rends compte, Will Fuller qui est quand même le Robbie Anderson du pauvre. Donc,
ça peut.
Ouais, il y a quelque chose, ouais.
Bon, les 49ers 17, Packers 34, c'est le dernier match de la semaine, c'était celui du jeudi. J'en ai parlé un peu moi dans le fauteuil, je vous laisse voir, mais c'était les Packers contre l'équipe C des 49ers, donc il n'y a quand même pas grand chose à dire sur ce match, en dehors du fait que Green Bay a fait ce qu'il était censé faire, quoi.
Ouais, là très franchement, on attendait surtout de voir la défense de Green Bay, qui avait été un petit peu chahutée ces dernières semaines, notamment sur le jeu au sol. Il y avait tellement rien en face que c'était compliqué. Oui. Et du côté de Green Bay, on a accéléré assez rapidement offensivement. Et le score est même flat. C'est quoi le score final? 34-17.
Et je crois que c'est... Oui, 30,
il n'y a pas 31-3 à un moment donné pour Green Bay.
Ça a été relativement un peu de stat à la fin. Quand même. Alors les tops et les flops. Les tops et les flops de la semaine, je vais laisser Raphaël commencer parce que je sais qu'il a une bardée de tops.
Assez gentil de me mettre comme ça.
Je suis désolé, je balance parce qu'avant l'émission, t'as dit que tu galères un peu.
Mon flop, Alain Mattei.
Et Raoul t'en a proposé un et tu l'as envoyé chier.
Oui, je l'ai envoyé. Oui, pardon, désolé Raoul, si tu nous écoutes, c'était pas méchant, mais. Non, j'aurais plus eu deux flops en vrai, mais non, en top, Dalvin Cook, sincèrement, je trouve, je critique assez souvent les coureurs pour ne pas reconnaître quand l'un, à mon sens, fait un travail assez énorme pour pas le mettre en valeur, donc Dalvin Cook, en plus, le personnage même, Dalvin Cook, est plutôt cool, donc voilà, je soutiens, c'est pas un énorme top, mais c'est un bon top.
Grégory.
Alors en top, j'ai pas le personnage d'Alvin Cook, hein, parce que je regarde pas des très très bons souvenirs de sa période Florida State, mais bon, ça c'est autre chose. Il paraît qu'il faut laisser des chances aux gens, tout ça.
Pourquoi il a fait quoi, Florida State?
Il y a une petite affaire de viol qui a traîné par là.
Je m'en fous.
Je m'en fous. C'est pas la question, le joueur, j'ai aucun problème avec, bien entendu.
On précise que Raphaël ne suit pas la NCAA.
Oui, voilà, c'est pour ça que je ne vois plus que ça.
T'imagines le mec qui a des problèmes. Je trouve que c'est un mec formidable, franchement. Moi, c'est mon top de la semaine. Je pense que son duo avec Adrian Peterson, ça aurait été quelque chose d'énorme pour les Vikings. Une double menace.
Donc mon top l'action de...
Ah bah il est tard, il fait nuit et...
Ah désolé, j'ai dû l'ambiance, la saison, pardon, mais...
Il y a un coup de mou là.
Non, mon top, ouais, les Dallas Cowboys avec leur action sur équipe spéciale, la passe latérale notamment qui a rendu cette rencontre un peu plus excitante parce que malgré tout c'était pas non plus un festival du côté d'Arlington, donc voilà. Et j'aime bien mettre les équipes spéciales en avant pour rappeler que Matthew Slater mérite sa veste de Hall of Famer. Donc bravo Cowboys.
C'est vrai que c'était une belle action la passe latérale d'ailleurs. Tiens, en parlant de mec sympa qui vient de Florida State, je réalise que mon top c'est Jameis Winston.
Oh non.
Mais non, mais
ils ont joué ensemble en plus.
Ils ont joué ensemble. Ouais. Mais non, mais parce que j'avais trouvé l'image de Jameis Winston dans le vestiaire des Saints quand même très sympa. Et qu'en cette période de Covid, je suis à la recherche de toutes les images positives possibles pour me donner le moral. Donc je trouvais que la vidéo de Jameis Winston et Sean Payton qui dansent dans le vestiaire des Saints rentrait directement avec le dernier clip de Julien Doré dans ma rotation du soir pour avoir un peu de bonheur. Voilà.
Et juste, du coup...
Raphaël, tu veux dire quelque chose?
Oui,
dans ton temps mal.
Florida State, c'est pas la même université que celle avec Hernandez, les frères Pouncey, tout ça. C'est pas la même université.
Non, c'est l'autre Florida.
Ah ouais, non, mais voilà, c'était ma question en fait. N'étant pas certain, je me disais sinon c'était une vraie usine à.
Ah, mais Florida, c'était une vraie usine aussi. Hein, Florida State, c'est moins distingué. Okay. Mais alors attention, Dalvin Cook, la plainte a été retirée. Mais bon, il y a toujours le bénéfice du doute. Et bon, visiblement, il y avait quand même un comportement un petit peu douteux. Mais,
très bien, très bien.
Après, Raphaël, je ne sais pas si tu connais les comptes Florida Man ou Florida Man.
Ah, mais si, exact. Avec toujours les Floridiens font n'importe quoi. Ouais.
C'est ça. C'est pas que les facs, apparemment, c'est généralisé. La Floride, c'est quand même un état très particulier, de ce que j'ai compris.
C'est vrai.
Du coup, c'est quoi? Bah, on est au flop, alors. Raphaël.
Flop, j'en ai deux, donc je vais faire très vite. L'interception accordée à Marcus Peters. Alors là, va falloir m'expliquer comment ça peut être une interception. Alors, tu vois que les mecs dans la end zone les receveurs doivent se battre pendant 10 minutes pour garder le ballon. Là, Marcus Peters, s'il le touche, c'est interception.
Après, il fait 3 fois.
Il tombe en arrière, donc il met trois fois le pied par terre.
On est d'accord, mais malheureusement, dans ce qui a été révisé. Pour mettre à jour la règle après les nombreuses polémiques, c'était de dire qu'il faut qu'il y ait au moins deux pieds d'appui. Là, malheureusement, il n'y a pas. Même si moi, sur le principe, je suis d'accord avec vous, la passe pour moi est incomplète.
Du coup, le mec retombe au sol, donc forcément, voilà, à un moment, ses pieds vont toucher
le sol.
Disons
que c'est un peu déstabilisant, cette décision. Hein, c'est un peu déstabilisant. Et puis, je réinsiste, mais si Anthony Lynn étudie un peu les stats NFL, il ne tenterait pas deux putains de fade, et je le redis à 4 secondes de la fin. Juste pour prouver. Non, mais. Pour prouver que ça sort pas de n'importe où quand même, l'an dernier, seulement 12% des fades tentés dans les 10 yards adverses ont été des passes complétées. Que 12% sur toute une saison pour toutes les équipes. Donc à 87%, c'est un jeu qui ne marche pas. Et là, le mec en sort deux à la suite. Voilà, moi c'est tout. C'est pour moi.
Grégory, ton flop.
Bah, mon flop, je suis un peu obligé. Takaris McKinley, qui était cuté très récemment par les Atlanta Falcons. Là, en termes de personnage, on est pas mal aussi. C'est quand même un défenseur un petit peu particulier. Enfin, on l'avait vu notamment le jour de sa draft arriver sur le podium avec le portrait de sa grand-mère. Bon, en soi, il n'y a pas de problème, hein. Mais il a pas l'air d'être tout seul dans sa tête, ce bonhomme. Donc, je pense qu'Atlanta a bien fait de s'en séparer.
Le problème du portrait de la grand-mère, c'est quand il a commencé à venir avec sur le terrain, qu'il essayait de rusher d'une main. Et...
non, mais voilà. Sur le principe, ce qui pouvait paraître mignon le jour de la draft, l'est beaucoup moins 4 ans plus tard, parce que tu te rends compte que oui, c'est un joueur qui a quand même quelques petits problèmes de personnalité. Et voilà, il peut dire blanc un jour, noir le lendemain. Enfin, voilà, c'est quand même un peu dommage parce que c'est un joueur qui avait été assez prometteur lors de ses premiers mois du côté d'Atlanta. Et bon, il y a eu des soucis de blessure, il y a eu un manque de production et ce besoin absolument de vouloir se considérer comme le nouveau pass rusher de la ligue alors que bon, ça reste un joueur relativement quelconque. Hein, 17 sacs et demi en carrière en 4 ans, c'est pas non plus ce qu'il y a plus ébouriffant. Donc voilà, c'est juste mon petit point en tant que fan des Falcons, en tant que fan de NFL en règle générale, parce que c'est pas trop le genre de personnage que j'affectionne.
Mais d'ailleurs, il y avait une vraie énigme dans son tweet là où il disait je voulais qu'ils m'échangent, ils ont refusé ça, ils ont refusé ça. J'ai 17 sacs et demi en carrière. Il voulait dire que c'est bien ou que c'est
non,
pas bien.
Non, justement, il dit I only. C'est ça, en plus. Le mec dit vous rendez compte, je suis plus de merde et ils m'ont pas pris pour un deuxième tour. Et c'est pour ça qu'il dit que le gars, je sais pas, il a un problème. Le gars, c'est split.
Je me rappelais plus du only.
Ouais, non, mais c'est pour ça. Après, bon. On fera difficilement croire qu'il était au courant des tours de draft qu'on voulait pour le récupérer. Donc, à mon avis, voilà, c'est du jeu d'agent.
Il y a peut-être son agent qui lui a un peu monté la tête. Bon, bah, mon flop, moi, c'était l'interception sifflée à Philip Rivers par Marcus Peters aussi. Donc, je rejoins Raphaël. Je comprends pas ce qui s'est passé à ce moment-là, clairement. Philip Rivers non plus, hein, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais il était bien, bien chaud sur le truc. Et Peters a parlé en conférence de presse et il a dit : « Je pensais que c'était une interception, mais j'ai parlé à Philip, il était pas d'accord. » Genre, ouais, no shit. Tu m'étonnes. Bon, bah, c'est comme ça que se termine l'épisode 376 du podcast où on a quand même, je pense, éclaté notre quota d'injures pour l'année parce qu'on a lâché quelques petits. Raphaël, il a lâché quelques petits putains. Moi, j'ai lâché quelques petits trucs aussi. Bon, on l'a dit, on arrive là. Dans la mi-saison, on a lâché notre fou rire de l'année aussi. C'est comme ça donc que se termine le 376. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous avez encore été très nombreux cette semaine. On rappelle qu'il y a les porte-clés en plus qui sont rajoutés dans les contreparties. Nico Cado, Thomas H, Apesca W, Tom, Marco, Hervé, Rémi, Chatillo, Coro Pockels, Rio et Arnaud Doucet. Merci à vous de nous soutenir. N'hésitez pas aussi, vous pouvez nous soutenir, je le dis très très peu souvent et pas assez sur le podcast, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes, comme ça, sur Apple Podcast, je veux dire maintenant, parce que je suis vieux. N'hésitez pas à mettre ça sur Apple Podcast, ça permet de remonter un peu le podcast dans les classements, et ça fait toujours du bien, et évidemment, plus vous êtes nombreux, et mieux c'est. Merci beaucoup, messieurs.
Toujours un plaisir.
Bah, merci.
Et pour nous retrouver, évidemment, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, @Raphaël_TDA et @TieloRadio, ça pour mes deux camarades sur Twitter, @AlainBTI pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com, TDActu.com si vous voulez aller plus vite sur votre clavier. Merci beaucoup de nous suivre. On se retrouve jeudi pour la preview de la semaine 10. Ciao, ciao.
Et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocash Global Beckham, Tom Brady Quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Bon, excusez-moi pour ma tête bizarre dans la visio, messieurs.
T'as oublié d'enregistrer
Non, c'est juste que mon logiciel d'enregistrement a planté.
Non.
Donc, je m'excuse auprès de nos auditeurs si le son n'est pas tip-top, c'est que vous entendez la version de notre visioconférence plutôt que la version qu'on enregistre en local, parce que là, j'ai eu un gros problème.
Mais t'es enregistré sur ta piste. Oh là là. Ah non.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.